suit du verset 15, c'est la page 619. Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit au-dedans de mon corps, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandai la vérité touchant tout cela. Et il me l'a dit, et me fit savoir l'interprétation des choses. Ces grandes bêtes qui sont quatre rois qui surgiront de la terre. Et les saints des lieux très hauts recevront le royaume, et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. Alors je désirais de savoir la vérité touchant la quatrième bête, qui était différente d'elle toute, extraordinairement terrible. Ses dents étaient de fer, et ses ongles d'airain. Elle dévorait, écrasait, et foulait avec ses pieds ce qui restait. Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre qui montait, et devant laquelle 3 étaient tombés, cette corne qui avait des yeux, et une bouche proférant de grandes choses, et dont l'aspect était plus grand que celui des autres. Je regardais, et cette corne fit la guerre contre les saints, et prévalut contre eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint, et que le jugement fut donné aux saints des lieux très hauts, et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Il dit ainsi, « La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera aux pieds et l'écrasera. » Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront du royaume, et un autre surgira après eux. Et il sera différent des premiers, et il abattra 3 rois. Il proférera des paroles contre les très hauts, et il consumera les saints des lieux très hauts. Et il pensera changer les saisons et la loi, et elles seront livrées en sa main, jusqu'à un temps, et des temps, et une moitié de temps. Et le jugement s'assiera, et on lui ôtera la domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et le royaume, et la domination, et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints des lieux très hauts. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Jusqu'à la fin de la chose. Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublaient beaucoup, et ma couleur fut changée en moi. Mais je gardais la chose dans mon cœur.
Le sujet qui est devant nous, il est bien évident qu'on reviendra forcément sur les éléments qui ont été considérés ce matin, de sorte que, outre qu'il est malaisé de résumer en quelques phrases les choses importantes que nous avons vues, mais étant donné que nous allons y revenir, nos chers amis qui n'étaient pas là ce matin pourront entrer de manière pratique dans le sujet devant nous. Nous désirons, sans être exclusif, répondre à une question d'un cher frère qui, ayant entendu ce matin les événements redoutables qui vont se dérouler dans la terre de Judée autour de Jérusalem, un cher frère demande que l'on dise un mot de la signification d'Armageddon. Nous savons que ce terme est employé abusivement et d'évaluer dans des théories qui n'ont aucun sens, qui font partie d'un enseignement délétère qui parcourt la rue aujourd'hui. Le terme est employé donc dans le livre d'Apocalypse au chapitre 16. Nous allons seulement dire un mot sans que nous prétendions tout dire. Lisons le verset au chapitre 16. Seigneur, donne comme avertissement d'abord pour ceux qui seront sur la scène dans ces jours-là, pour le résidu, et pour chacun de nous aujourd'hui, voici, je viens comme un voleur. Évidemment, le Seigneur ne vient pas comme un voleur pour l'Église. Le voleur nous introduit dans la pensée d'une venue subite, inattendue et terrifiante. Un voleur qui fait irruption pendant la nuit est un objet de terreur. Il est inattendu, et il se trouve là tout à coup, terrifiant ceux avec lesquels il a affaire. Voici, je viens comme un voleur, bienheureux celui qui veille, afin de ne pas se laisser surprendre par ces événements, et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et le verset 16, « Et ils les assemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. » Qui est ce « il » pronom personnel pluriel. Ce sont ceux du verset 13, c'est l'énergie d'erreur qui sort de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, les trois grands agents trinitiques formant l'antitrinité sont à l'œuvre dans ces jours-là. Dieu leur enverra une énergie d'erreur. Ce sera un temps terrible lorsque toutes les forces du mal seront décuplées et que les hommes seront séduits et tomberont dans ce piège mortel tendu par la bête et le faux prophète à l'instigation du dragon, c'est-à-dire de Satan. Alors, séduits par l'adversaire, qu'arrive-t-il ? Ils les conduisent pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Et ils les assemblèrent au lieu appelé Armageddon. Or, le livre de l'Apocalypse étant un livre essentiellement symbolique, quelqu'un a dit à juste titre, ce livre échappe à tous les genres, sauf à celui de la grandeur. Livre remarquable, mais dont la lecture suppose que nous avons lu la parole de Dieu et que l'emploi des symboles ne nous arrête plus. Il est question de beaucoup de symboles dans la parole de Dieu qui se rattachent à des enseignements antérieurs que Dieu nous a donnés. Sauf que pour comprendre l'Apocalypse, il faut avoir lu la parole de Dieu et l'avoir sondée avec le secours de l'Esprit de Dieu. Il ne nous viendrait pas l'idée d'ouvrir la dernière page d'un livre qui relate beaucoup d'événements et d'essayer de comprendre la conclusion de l'auteur. Ce serait chose impossible si nous n'avons pas porté attention à tout ce que le livre nous enseignait. C'est la même chose pour l'Apocalypse. Donc, nous nous trouvons là devant un terme Armageddon, l'endroit où toutes les nations sont assemblées pour le combat final. Armageddon provient de Megiddo. Et quand on a lu l'histoire de Josias, on sait que ce roi fidèle s'est laissé piéger, s'est laissé entraîner dans une guerre où il n'avait rien à gagner, rien à perdre. Ce n'était pas son affaire. Mais sans doute, voulant favoriser une nation plutôt qu'une autre, il a voulu empêcher l'Égypte qui montait vers la Syrie pour régler son compte. Et le roi Nécho d'Égypte a dit, « Mais pourquoi te mets-tu sur mon chemin ? Je viens de la part de Dieu. » Et Josias n'a pas écouté. Cher frère Henri Rossier dit, « Dieu lui avait dit, « Eh bien, je vais te recueillir en paix. » Et Josias lui-même a biffé de cette promesse de Dieu les deux mots « en paix ». Il a biffé ces mots en se lançant dans une guerre, dans une aventure dans laquelle Dieu ne lui donnait aucun mandat. Se mêlant aux affaires du monde, il est bien évident qu'il doit souffrir les conséquences des actions qu'il entreprend avec le monde. Et ce pauvre Josias, à l'âge de 39 ans, a perdu la vie. Et comme c'était un roi pieux, fidèle, aimé de beaucoup parmi son peuple, à part ceux qui étaient restés résolument idolâtres, mais il y avait quand même un résidu qui avait apprécié l'énergie de Josias pour rétablir le culte de l'Éternel, en revenir aux choses du commencement, à la Pâque, etc., ce fut un grand deuil. Et le prophète Jérémie parle de ce deuil de Josias et de cette triste fin de Josias dans la vallée de Megiddo, que l'on retrouve déjà dans le livre des Juges. Le prophète Zacharie emploie aussi l'expression de Megiddo dans son livre, au chapitre 12. Et il dit ceci, en parlant du deuil que le résidu va connaître demain, lorsqu'ils réaliseront leur culpabilité associée qu'ils sont à la nation qui a crucifié le Messie, ils vont mener deuil sur lui et ils vont se tourner vers lui, celui qu'ils ont percé. Ce sera pour eux l'équivalent, la réalisation du grand jour des propitiations. Ils affligeront leurs âmes et Dieu, par l'humiliation dans laquelle ils seront plongés, tirera pour lui un peuple, un petit résidu qui deviendra l'Israël tout entier. Mais dans les scènes de la fin, auquel on a déjà fait allusion, deux tiers, dit le prophète Zacharie, seront retranchés par le jugement. Un tiers sera préservé, mais pour passer aussi par l'eau, par les eaux et par le feu, pour être épuré. Et un petit nombre seulement sera sauvé. Alors le prophète Zacharie nous parle de ce deuil qui sera celui du résidu dans le chapitre 12. Et il nous dit au verset 11, « En ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadradimon dans la vallée de Megiddo. » Donc le prophète nous rappelle, quelques temps plus tard, quelques siècles plus tard, la lamentation que l'on a, qui s'est produite dans la vallée de Megiddo est en relation avec la perte de ce jeune roi Josias, dont la disparition a produit un deuil immense au milieu de son peuple. Cela veut donc dire que c'est un endroit de défaite, un endroit d'écrasement, un endroit de pleurs. Et Dieu emploie cette expression pour montrer, non plus à l'adresse de son peuple, mais à l'égard des nations, ce que seront les circonstances de leur destruction finale. Armageddon, terme symbolique. Et nous revenons alors pour donner une preuve de ce que nous avançons. D'une part, au prophète Ésaïe, au chapitre 14, l'Éternel des armées a juré, dit le prophète, au verset 24. Il s'agit, dans ce passage que nous lisons, d'une partie de ces nations, d'un groupe important de ces nations. Nous l'avons vu ce matin, la Confédération du Nord, c'est-à-dire l'Assyrien, avec tous ceux qui lui sont alliés, que nous avons souligné dans le prophète Ézéchiel, notamment la Perse ou l'Iran, dont on a parlé hier assez longuement. La Perse, l'Iran et plusieurs nations du nord de l'Afrique qui, pensons à Tripoli, qui sont en liaison étroite avec l'Assyrien. De sorte que dans le chapitre 14 du prophète Ésaïe, nous avons la mention de la destruction de ce grand groupe des nations. Et nous lisons, verset 24, l'Éternel des armées a juré, disant, pour certains, comme j'ai pensé, ainsi il arrivera, comme j'ai pris conseil des choses, la chose s'accomplira, de briser l'Assyrien dans mon pays. Donc Dieu va tirer sur les montagnes d'Israël l'Assyrien, qui tombera dans un véritable piège et qui connaîtra sa fin. On enterrera des morts pendant 7 mois et on brûlera des armes pendant 7 ans. Le prophète Ézéchiel nous donne beaucoup de détails et il a déjà tracé l'immense cimetière des armées de cet empire. Des armées qui n'en auront jamais connu de semblable sur la terre quant à la puissance, quant au potentiel militaire. Le prophète Joël nous donne des détails et le prophète Ézéchiel. Il n'y aura jamais eu sur la terre une puissance militaire égale à celle-là. Mais tout sera néanti, le Seigneur interviendra lui-même, il va briser l'Assyrien dans son pays. Comme il en fut autrefois, en une seule nuit, 164 000 Assyriens sont morts par l'effet d'un ange que Dieu avait envoyé pour détruire cette armée afin de préserver son peuple. Il en sera de même à la fin. L'Assyrien sera brisé dans le pays d'Israël. L'immense cimetière qui est déjà tracé, le nom est donné, c'est Amon-Gok dans le chapitre 37-38 du prophète Ézéchiel. N'aura rien de comparable avec les immenses cimetières militaires qui impressionnent le voyageur quand on traverse les plaines de France, la Champagne notamment. On est impressionné en voyant l'étendue de ces cimetières et les croix et les croix. Et on se dit, s'il y avait un homme debout à l'endroit de chaque croix, on serait profondément impressionné. Mais ce ne sera rien à côté de Verdun, à côté de tous les grands champs de bataille. Lorsque l'Assyrien sera entièrement défait et symboliquement Armageddon. Dernier passage sur cette question, sans être exhaustif, c'est dans le prophète Joël que nous avons déjà cité, un peu plus loin, au chapitre 3 de ce prophète, l'Éternel dit, et c'est dans ce prophète Joël que nous avons d'ailleurs la mention de cette nation extrêmement forte, qui s'appelle l'Assyrien. Il est appelé au verset, pour vous donner un détail, puisque nous occupons de ces sujets, on peut peut-être s'arrêter un instant de plus, au chapitre 2 de ce prophète Joël, vous voyez, il est dit de lui, lorsque le jour de l'Éternel est proche pour sa destruction, la destruction de ses adversaires et de la Syrie en particulier, est un jour, au verset 2, qui est proche, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres, et c'est comme l'aube qui s'étend sur les montagnes. Un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en eut jamais, et qu'après lui, il n'y en aura point jusqu'aux années des générations et des générations. Vous voyez, l'Éternel a déjà, par le prophète Joël, donné l'indication de la puissance extraordinaire de cette nation. Mais il n'en restera rien. Et dans le chapitre 3 de ce prophète Joël, nous avons l'endroit, Megiddo, Armageddon, où cette destruction finale aura lieu, non pas seulement pour l'Assyrien, mais pour toutes les nations qui seront assemblées par les trois agents de Satan que nous avons vu dans le chapitre 19, le dragon, la bête et le faux prophète auront des agents moraux, comme des esprits de grenouilles qui séduiront tous les hommes pour les amener là, dans la terre de Judée. Nous ne disons pas la Palestine. Pourquoi ? Parce que Palestine vient de Philistins. Et en fait, si l'on veut être précis, comme le disait un cher frère, quand nous disons la Palestine, nous disons le pays des Philistins, la bande de Gaza notamment. Et dans certaines versions, nous avons pour le pays des Philistins le nom de Palestine. Dans Exode 15, par exemple, les versions catholiques emploient au lieu du pays des Philistins la Palestine. Mais nous employons Israël, le pays d'Israël, ou plus précisément la terre de Juda, dans laquelle Dieu a décidé d'anéantir tous ses ennemis, parce que c'est là, ne l'oublions pas, que Christ est mort, que Christ a été humilié, il entre dans les desseins de Dieu de tout terminer à Jérusalem, comme tout a commencé à Jérusalem en relation avec la mort et la résurrection de Christ. Donc ce passage de voici dans Joël 3, verset 14, multitude, multitude dans la vallée de jugement, multitude dans la vallée de jugement. Et nous avons ensuite le jour de l'Éternel est proche dans la vallée de jugement. Le soleil et la lune seront obscurcis, Seigneur rugira de Sion, et ce sera enfin la destruction de tous les ennemis d'Israël. Avant que le Seigneur purifie le pays, puisqu'il y a 1335 jours, il y a 65 jours ajoutés aux 1260 jours, 95 jours ajoutés aux 1260 jours de Daniel 12, 1260 jours terminent la semaine de Daniel, mais on comprend qu'il faudra tout un temps pour déblayer les ruines et pour qu'il y ait un semblant, un minimum d'ordre à partir duquel le Seigneur va tout régler en vue de l'établissement de son royaume. Donc résumons, Megiddo, Armageddon, Megiddo, lieu de pleurs, lieu de défaite des jours d'autrefois pour un roi pieux comme Josias, mais à l'avenir, lieu de défaite sans appel, sans qu'il y ait la moindre miséricorde sur toutes les nations qui se dresseront en opposition avec Christ. Voilà, je suppose que cela pourra satisfaire tout au moins notre frère.
Armageddon est cité en Apocalypse 16 à l'occasion de la septième coupe des jugements divins. Et dans l'ordre des jugements qui nous sont donnés dans l'Apocalypse, nous avons d'abord l'ouverture des sceaux, ensuite les trompettes, trois dernières étant celles de malheur, et ensuite les coupes. Les jugements des sceaux concernent le quart de la terre, les jugements des trompettes concernent le tiers de la terre, et particulièrement la terre prophétique. Par contre, les coupes sont un jugement universel qui touche jusqu'au fond de la terre habitée, tout entière. C'est-à-dire toutes les nations sont impliquées dans ce dernier combat, qui est un combat où Dieu va régler le compte à toutes ces nations infidèles, idolâtres, opposées à lui. Ce qui nous montre que Armageddon est probablement le lieu où les nations se rencontreront toutes juste avant l'avènement du règne de Christ. Pourquoi ? Quelles sont les circonstances qui font que ces nations sont présentes ? Rappelons-nous, on l'a dit déjà plusieurs fois dans le courant de nos études, qu'Israël est le centre de la prophétie, Christ étant attaché à ce peuple terrestre qu'il s'est acquis pour lui-même et qu'il veut bénir. Maintenant, et on en a déjà vu les signes avant-coureurs, les choses existent historiquement, les Juifs sont déjà rentrés dans leur pays. On peut le dire dans l'incrédulité et l'apostasie. C'est un peuple faible, vulnérable, qui actuellement a rejeté son Messie et dans l'incrédulité. Il va bientôt, nous l'avons rappelé ce matin, accueillir l'Antichrist pour être son roi, le faux roi. Mais il y a un peuple qui l'effraie, c'est le roi du Nord, la Syrie. C'est-à-dire les nations immédiatement au nord de la terre d'Israël qui sont soutenues par cette immense puissance de la Russie. C'est le fléau qui inonde, selon une expression connue de Ésaïe 28. Alors le peuple qui est incrédule ne peut pas se confier en Dieu. Il se confie donc dans ses propres ressources et va faire deux alliances. Une avec l'Antichrist, avec le faux roi, l'autre avec l'Empire romain, pour essayer d'être sauvegardé de la puissance et du danger de la Syrie. Ésaïe 28 nous dit, au verset 15, « Nous avons fait une alliance avec la mort. Il s'agit des hommes moqueurs qui gouvernent ce peuple qui est à Jérusalem. Ce sont les Juifs rentrés dans leur pays et qui ont encore rejeté leur Messie. Le voile est encore sur leur cœur, ils ne peuvent pas croire. » Nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le Shéol. Si le fléau qui inonde passe, il n'arrivera pas jusqu'à nous, car nous avons fait du mensonge notre abri et nous nous sommes cachés sous la fausseté. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre précieuse de coin, sur fondement, celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Verset 18 à la fin. Votre alliance avec la mort sera abolie, votre pacte avec le Shéol ne subsistera pas. Lorsque le fléau qui inonde passera, vous serez foulés. Par lui, dès qu'il passera, il vous prendra. Le pacte était avec l'Antichrist. L'alliance était avec la bête romaine. Le fléau qui inonde, c'est l'Assyrien. Dieu va se servir d'abord de l'Assyrien, selon Ésaïe 10, comme la verge de sa fureur pour châtier son peuple. C'est la raison pour laquelle Dieu amène la Syrie, le roi du Nord, dans le pays d'Emmanuel. Et il y trouve l'Antichrist qui a pris possession du pouvoir et la bête romaine qui soutient en fait politiquement, séculairement, le pouvoir religieux de l'Antichrist pour essayer de sauvegarder les Juifs apostats. La Syrie arrive, châtie le peuple de la part de Dieu. Traverse le peuple pour essayer d'aller régler son compte à l'Égypte, le roi du Midi. Et nous le verrons peut-être dans le courant de nos études, ou peut-être l'année prochaine, si le Seigneur nous accorde de continuer le livre de Daniel. C'est Daniel 11 à la fin. Verset 36, c'est le roi qui est l'Antichrist. Verset 40, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec beaucoup de navires. Et il entrera dans les pays et inondera et passera outre. Voilà le fléau qui inonde, c'est bien l'Assyrien. Et il viendra dans le pays de beauté et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main. Verset 44, des nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront et sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Et alors la fin, verset 45, il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté et il viendra à sa fin et il n'y aura personne pour le secourir. C'est la fin de l'Assyrien, du roi du Nord, du fléau qui inonde. On peut penser, d'après les passages que nous avons lus dans l'Apocalypse ce matin, que les rois de l'Orient, dont la voie a été préparée, selon la pensée de Dieu, se trouveront là en même temps réunis. De sorte qu'on y voit les quatre confédérations dont notre frère M. Finet avait rappelé l'existence ce matin selon l'écriture, selon l'enseignement de l'Écriture. On comprend bien en fait que Dieu doit régler le compte de ces nations qui sont complètement opposées à l'autorité et au gouvernement de son Fils. C'est dans la terre de beauté, entre la ville de Jérusalem et la grande mer, c'est-à-dire la mer Méditerranée, à Megiddo, dans la plaine de Jizréel, que là, la les quatre confédérations trouveront leur perte finale. Elles seront complètement exterminées. Le caractère particulier de l'Assyrien, nous l'avons rappelé ce matin, c'est que c'était l'ennemi héréditaire du peuple, mais l'ennemi particulièrement qui s'est acharné contre le peuple à un moment où Christ était déjà là, où le peuple était reconnu de Dieu dans la personne, dans l'existence de ce résidu fidèle qui a traversé l'ensemble des jugements. Quelle sera la suite de ces nations après leur jugement? Édom disparaît, ne verra plus jamais le jour, complètement exterminé. L'Empire romain, on l'a vu plusieurs fois, la quatrième bête, n'existe plus. Sans main, la pierre détruit la fin de la statue et on ne trouve plus de place pour elle. On comprend bien que cette puissance politique de l'Europe occidentale, qui a été l'occasion pour la prostituée, pour la fausse église, de prendre possession du monde, n'a plus de place dans les pensées de Dieu. Mais deux nations subsisteront, l'Assyrien d'un côté et l'Égypte de l'autre. C'est-à-dire, à la différence des deux autres confédérations, l'Assyrien, le roi du Nord, et l'Égypte, le roi du Midi, auront une place dans la pensée de Dieu, dans la bénédiction. Israël devant être le centre de cette bénédiction. C'est dans Ésaïe. Ésaïe 19, le verset 24. En ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et avec la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre. Car l'Éternel des armées le bénira, disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Israël, selon la pensée éternelle de Dieu pour le monde, est effectivement le centre du monde, est le centre de la bénédiction terrestre. L'Égypte, qui a été la nation qui a accueilli le Seigneur Jésus lorsqu'Hérode a voulu tuer les enfants, aura une bénédiction en rapport avec cette partie des conseils de Dieu, des voies de Dieu à l'égard du monde qui se sont accomplies lorsque l'enfant Jésus a été caché en Égypte. Et la Syrie, qui a été l'instrument des jugements de Dieu pour faire revenir son peuple, le peuple d'Israël à lui-même, a encore une place en rapport avec les bénédictions terrestres. Et selon la fin de Zacharie, c'est la célébration de la fête des tabernacles, le centre de la bénédiction, c'est Jérusalem. C'est le temple rebâti, c'est l'autel, c'est le service. Dans le temple, et tous ceux qui ne viendront pas à Jérusalem pour la fête des tabernacles, ceux-là seront détruits.
Un peu sur le chapitre qui a été lu tout à l'heure et qui a déjà été lu ce matin en relation avec, d'une façon plus précise, avec cette quatrième bête. C'est donc l'Empire romain, avec tous les caractères historiques que nous lui connaissons et que nous retrouvons dans le verset 19 d'une part et dans le verset 23 d'autre part. Cette manifestation de cet empire dont la lecture de l'historien Joseph nous a donné une idée de la puissance extraordinaire. Mais entre le verset 19 et 20 d'une part, et entre le verset 23 et 24 d'autre part, si l'on veut bien comprendre le texte, on est obligé d'y introduire tout le temps de l'Église. C'est dire que le verset 19 d'une part et 23 d'autre part se rapportent à un fait historique, tandis que les versets 20 et les versets 24 et suivants se rapportent à la prophétie. C'est donc dans le verset 20 le développement qui va jusqu'à son comble des caractères de l'Empire romain historique. Et les 10 cornes dont il est question, et touchant les 10 cornes au verset 20 qui était sur sa tête, et touchant l'autre qui montait de devant laquelle 3 étaient tombés, cette corne qui avait des yeux et une bouche proférant de grandes choses et dont l'aspect était plus grand que celui des autres. Ces 10 cornes représentent 10 états. De ces 10 états, 3 seront subjugués par l'Empire romain. Et il en subsistera 7 Et ces sept, impressionnés par l'intelligence et par la puissance de cette bête romaine, se souderont ensemble sous une forme de fédération et se soumettront totalement et entièrement à cette bête romaine dont le chef sera le chef de l'Empire romain, c'est-à-dire cette petite corne. Ce chef de l'Empire romain aura certainement une origine très simple, très populaire, dans le sens que c'est une toute petite corne qui grandit, mais qui présente des qualités extraordinaires, des qualités telles que certains hommes d'État ont pu manifester pour subjuguer les foules et conquérir les royaumes. Ce sera un homme d'une puissance extraordinaire. Et nous arrivons à son jugement qui est manifesté par trois choses. Ce jugement a lieu pour trois raisons. Et nous trouvons tout d'abord que au verset 20e, que cette bête profère de grandes choses. Ces grandes choses, ce sont des blasphèmes contre Dieu. Cela nous est décrit d'une façon très précise dans les versets 5 et 6, sauf erreur, de l'Apocalypse 13. Il y a donc une hostilité, un défi lancé à Dieu, alors que dans les chapitres de Daniel que nous avons esquissés, dans les chapitres 3 à 6, il s'agissait de se moquer en quelque chose de Dieu, en quelque façon de Dieu, ou de l'ignorer. Mais il n'y a pas ce défi à la puissance même de Dieu. Tandis que le chef de l'Empire romain lancera un défi à la puissance de Dieu, se considérant comme plus fort que Dieu. Et c'est ainsi qu'il prononce de grandes choses. Et ceci est la première raison de son jugement. La deuxième raison, c'est que cette petite corne, c'est-à-dire le chef de l'Empire romain, va s'opposer aux saints. Pourquoi aux saints ? Parce que les saints sont un témoignage de l'intervention de Dieu dans le monde, et ce témoignage-là est insupportable à la bête. Aussi, il veut anéantir la bête, et la petite corne, le chef de l'Empire romain, emploiera tous les moyens à sa disposition. On en a dit deux mots ce matin, on empêchera ces gens de travailler, on les empêchera de manger, de gagner leur vie, il y aura des contraintes morales, physiques et de toutes sortes qui seront épouvantables. Et le but sera, pour le chef de l'Empire romain, de détruire ses saints, de les éliminer de la scène terrestre, pour qu'ils ne soient plus comme un témoignage de l'intervention de Dieu dans le monde. Et la troisième raison du jugement du chef de l'Empire romain, c'est que ce chef veut supprimer toutes les institutions divines sur la terre, les institutions religieuses, mais voulues de Dieu sur la terre. C'est ce que nous trouvons au verset 25. Il consumera les saints des lieux très hauts, donc c'est la persécution des saints, et enfin, il pensera changer les saisons et la loi, les saisons étant les fêtes juives, et la loi étant le fondement même du peuple d'Israël, qui restera la base de la foi du résidu juif. Parce que, remarquons-le en passant, pendant tout ce temps, les Juifs n'auront pas reconnu le Seigneur Jésus comme le Christ, comme le Fils de Dieu, et c'est pour cette raison qu'ils devront subir toutes ces terribles tribulations, si terribles qu'on comprend que Daniel en ait frémi. Donc, trois raisons pour que le jugement tombe sur ce chef de l'Empire romain. Défi contre Dieu, persécution des saints, suppression des institutions divines. On peut se poser la question quand donc ces choses auront lieu. Et nous voulons faire simplement une allusion à la question de la dernière semaine dont il est question au chapitre 9e. dans cette dernière semaine qui se déroulera donc après que l'Église ait été enlevée, ravie par le Seigneur en l'air, et remarquons encore que dans cet enlèvement, le Seigneur ne viendra pas sur la terre, mais il ravira les siens, il viendra les chercher en l'air et il les ravira en l'air vers lui. Il ne s'agit pas que le Seigneur prenne position sur cette terre qui est condamnée au jugement. Et cette dernière semaine se déroulera donc après l'enlèvement de l'Église. Et voici ce qu'il est dit au verset 26e du chapitre 9 de Daniel. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. C'est donc la mort du Seigneur. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement. On peut penser que entre la destruction de la ville et du lieu saint, et la fin qui en est en débordement, il y a de nouveau toute cette période de l'Église. Parce que la destruction de la ville et du lieu saint se rapporte certainement à la destruction du peuple d'Israël, sa dispersion parmi les nations lors de la campagne de Titus en 70 après Jésus-Christ. Mais la fin en sera avec débordement, c'est-à-dire que les jugements qui tomberont sur le peuple d'Israël seront encore bien pires que ce que Israël a connu pendant la guerre de Titus. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. C'est donc le chef de l'Empire romain reconstitué qui va confirmer une alliance avec les juifs apostats, avec le peuple juif apostat. Pourquoi apostat? Parce que, comme nous le remarquons dès maintenant, dès aujourd'hui, l'entité d'Israël est essentiellement politique, mais ne reconnaît pas l'intervention de Dieu. Il y a, bien sûr, toujours les croyants et l'en résidu qui est fidèle et qui se rend encore au mur des lamentations pour y prier ce Dieu qui se trouvait là dans ce temple, puisque le mur des lamentations se trouve là où se trouvait le temple. Mais la plus grande partie du peuple d'Israël reniera son Dieu et se considérera comme une puissance politique. Et il y aura une union entre l'Empire romain et le peuple juif. Ce sera le début, à ce moment-là, le début de la septième semaine de Daniel. Il est bien probable que cette dernière semaine commence pas tout de suite après l'enlèvement de l'Église, car il y aura toute une préparation à laquelle nous assistons en partie maintenant, mais qui se précisera. Il faudra que, pour que cette dernière semaine de Daniel commence, qu'il y ait vraiment un empire politique bien établi, bien formé, bien organisé. Et à ce moment-là, il y a donc cette alliance avec la multitude, c'est-à-dire avec le peuple juif. Et au milieu de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, il y aura il fera cesser, le chef de l'Empire romain fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ce sera au milieu de cette semaine une alliance qui sera contractée entre l'Antichrist et le chef de l'Empire romain. Et cette alliance, avec un pouvoir politique, le premier paragraphe de l'Apocalypse 13, avec un pouvoir religieux, l'Antichrist, deuxième paragraphe de l'Apocalypse 13, cette alliance entre les deux scellera le début de la dernière moitié de la dernière semaine de Daniel. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande, il y aura la statue de l'Empire, du chef de l'Empire romain dans le temple sera souillé. Et à cause de la protection des abominations, à cause donc de la présence de cette idole dans le temple, à cause de cela, il y aura un désolateur, et c'est cette période de 3 ans et demi qui sera une période si épouvantable que si elle n'eût été abrégée, il n'y aurait plus de sauvé. C'est pendant cette période appelée la grande tribulation que les contraintes les plus épouvantables se feront sentir sur les Juifs qui seront là, et que, on en a parlé tout à l'heure, il sortira ce petit résidu fidèle et qui sera particulièrement honoré de la part du Seigneur.
Comme référence à la suite de ce qui a été exposé, Matthieu 24, verset 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Dans ce chapitre-là, donc, rejoint ce que nous avons entendu au sujet de la dernière moitié de la semaine de Daniel. Il est intéressant aussi de considérer en rapport avec cette dernière demi-semaine le deuxième livre des psaumes, à partir du psaume 42. Le résidu est chassé de Jérusalem, et nous entendons ses soupirs. Dans les psaumes 42, 43 notamment, quand nous allions avec la foule dans la maison de Dieu, ce deuxième livre nous présente donc les expériences, les souffrances du résidu, alors que l'Antichrist les opprimera sans merci. D'autre part, insistons sur le fait qu'on ne pourra ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Chers frères et sœurs, quel privilège nous avons aujourd'hui. Encore, Dieu maintient le bras de l'autorité dans nos pays. Mais alors, quel sort terrible. Cet homme, en effet, possédera le pouvoir absolu, ni acheter, ni vendre sans la marque de la bête. S'il y avait quelqu'un ici qui ne soit pas encore au Seigneur, permettez-nous de faire un appel, chère âme. Il vient des temps terribles pour la terre. Êtes-vous venu au pied de la croix? C'est aujourd'hui le temps agréable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Les événements dont nous parle Daniel, dont nous nous occupons, sont futurs. L'Église sera ravie auprès de son Seigneur. L'énergie d'erreur envoyée sur la terre, ils croiront au mensonge parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2. Il ne sera plus possible alors de croire au Seigneur Jésus. Les Bibles ne diront plus rien. Ce sera le pouvoir des ténèbres. La nuit en laquelle personne ne peut travailler, dont parle le Seigneur dans Jean. La nuit vient. Mais, chers frères et sœurs, le matin aussi. Le matin vient pour l'assemblée, pour ceux qui attendent le Seigneur, qu'il aime. Et pour le résidu, la délivrance aussi viendra. Le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob l'impiété. Lisons-nous, et il établira sa résidu comme couronne de beauté, lisons-nous dans les prophètes. Jérusalem sera un sujet de louange sur la terre. Voilà ce qui est après l'enlèvement de l'Église, pour le peuple terrestre, pour le résidu. Les 10 tribus reviendront, et Judas et Benjamin, Zacharie nous parle d'un seul bois, chapitre 13. Et un résidu, bien sûr, seul un résidu. La nation apostate recevra l'Antichrist, celui dont on a parlé ce matin, dont le Seigneur dit, il viendra en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Combien c'est solennel. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, dit-il. Nous ne voudrions pas tendre un piège aux frères, mais nous aimerions poser cette question. Est-ce qu'il faut voir dans les saints des lieux très hauts, l'Assemblée?
Et question intéressante, c'est évident, mais il est difficile de répondre à toutes les questions. Dans le chapitre qui est devant nous, peut-être qu'on peut tirer une indication en se tenant au texte. Au verset 16, il y a d'abord un élément qu'il faut bien souligner. Je m'approchai de le prophète, de l'un de ceux qui se tenaient là. Qui sont ceux qui se tenaient là? Et de l'un qui se tenait là. Tout à coup, ces personnes sont introduites assez abruptement sur la scène. Nous n'avons aucun doute, chers amis, à dire, nous n'éprouvons aucun doute à l'égard de ce que nous disons, c'est que la puissance angélique est à l'œuvre. Les anges sont à l'œuvre aujourd'hui, invisibles sans doute, mais Dieu les a envoyés, Dieu nous le dit, sont des serviteurs que Dieu a envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Et le prophète Daniel ne nous laisse pas dans l'ignorance à l'égard du ministère des anges. Nous en avons déjà vu quelques-uns qui sont intervenus, sorte que le prophète suppose que nous connaissons bien la portée de cette expression quand il dit « l'un de ceux qui se tenaient là ». Il y aura d'ailleurs une puissance angélique toute particulière. Il y aura l'ange Gabriel qui interviendra dans des conditions si particulières pour annoncer la naissance du Seigneur, et aussi l'ange Michaël, l'archange, que nous retrouvons aussi dans le livre d'Apocalypse. Alors, si nous tournons une page au chapitre 8, nous avons ceci. Et voici au verset 15, « Comme, la, non pas un homme, mais comme l'apparence d'un homme se tint vis-à-vis de moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Et il cria et dit, « Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision. » Celui-ci, c'est évidemment Daniel. Donc un homme se tient là, en relation étroite avec Gabriel, à qui il s'adresse, et en quelque sorte une préséance sur lui, dit, « Gabriel, empresse-toi de faire comprendre à Daniel la portée de la vision. » Conclusion, Dieu mettra d'une manière particulière, dans ces jours-là, au service de Daniel, du résidu illustré par Daniel, la puissance angélique. Il n'y a jamais de situation dans laquelle Dieu n'intervienne en faveur de ses bien-aimés. Et comme nous reviendrons sur la terre en relation avec le peuple de Dieu, nous reverrons une puissance angélique particulièrement à l'œuvre en leur faveur. Premier point. L'un qui était là, donc, est interrogé, et il me l'a dit au verset 16, disant, ces grandes bêtes qui sont quatre rois qui surgiront de la terre. Première proposition. Il devait donc y avoir quatre rois ou quatre autorités. Le roi n'est pas seulement celui qui détient la couronne, mais les 10 rois, les 10 cornes ne sont pas précisément des rois, ce sont des royaumes avec une autorité telle que nous l'avons ici par exemple, un gouvernement démocratique, une royauté constitutionnelle, en France un président. Il n'est pas nécessaire que nous ayons spécifiquement un roi, c'est l'autorité établie sur un état proprement dit. Alors, nous retenons cette proposition. Cet envoyé mystérieux dit, ces grandes bêtes, qui sont quatre rois qui surgiront de la terre, sortiront de la terre, et nous avons vu qu'elles ont déjà été suscitées par Dieu au cours de ces révolutions, de ces grandes eaux en mouvement. Elles ont déjà été amenées sur la scène, mais elles n'ont paru que chacune en leur temps pour remplir le rôle que Dieu leur avait dévolu. Il y a donc quatre grands rois, quatre autorités, quatre royaumes. Il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas six. Dieu n'a pas dit quoi que ce soit au sujet de l'URSS, de la Russie, ni de l'Amérique, qui sont de très grandes puissances, on les appelle les deux grands d'ailleurs. Mais Dieu n'a pas dit quoi que ce soit pour ces deux grands pays quant à l'hégémonie sur le monde tout entier. Il y a quatre rois, pas cinq, ni six. Sans doute, ces deux puissances que nous avons citées joueront un très grand rôle. On l'a bien entendu plusieurs fois, c'est le roi du Nord et l'Amérique Il est bien clair qu'elle sera associée, comme elle l'a toujours été dans le passé, aux circonstances de l'Europe. Le chef de notre voisin, de notre grand pays voisin, Charles de Gaulle, disait « l'Europe et ses filles ». Il était fier d'affirmer qu'après tout, l'Amérique était dérivée de l'Europe quant à sa civilisation qu'elle détenait depuis l'Europe par la pénétration d'une quantité de colons qui se sont établis dans ces pays depuis longtemps déjà. Il disait donc « l'Europe et ses filles ». Bien évident que ce grand pays d'Amérique du Nord sera comprise dans l'entité que la parole de Dieu appelle l'Empire romain, parce qu'elle a toujours été associée d'instinct, de culture, par des liens politiques bien établis à toutes les conditions de l'Europe occidentale. Ces quatre rois surgiront de la terre. Et nous en venons alors à la question de notre frère, à laquelle il répondrait bien mieux que nous, nous en sommes persuadés. Il est tout de suite fait mention « et les saints des lieux très hauts recevront leur royaume ». Autrement dit, après l'histoire de ces quatre rois, telle qu'elle est dépeinte dans la parole de Dieu, le but de Dieu, c'est de donner à Christ l'autorité suprême en lui donnant comme épouse, comme compagne de sa gloire, l'Église. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la première page de la révélation divine nous montre déjà l'intention de Dieu de donner une épouse à Adam, comme il veut donner une épouse, comme il allait donner une épouse, qui était dans son cœur de toute éternité au dernier Adam. Noce d'Adam dans la première page de la Bible, noce du dernier Adam à la fin du livre de la révélation. Les saints des lieux très hauts. Et chers serviteurs de Dieu, comme JND dira, les saints des lieux très hauts dans Daniel ont donné naissance à cette expression « les saints célestes » dans le Nouveau Testament. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Les saints des lieux très hauts, autrement dit, les saints des lieux célestes. Une preuve supplémentaire se trouve dans ce même chapitre. Nous l'avons au verset 25, il proférera des paroles contre le Très-Haut et il consumera les saints des lieux Très-Hauts. Il consumera les saints des lieux Très-Hauts, c'est-à-dire que le résidu fidèle sera soumis à une épreuve terrible, à la persécution qui ira jusqu'au martyr. L'Apocalypse nous dit « ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort ». Plutôt que de porter la marque de la bête 666 sur la main droite et sur le front, et nous ne connaissons pas la signification de ce chiffre. On a supputé beaucoup de choses, et certains noms de personnes qui ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire répondent à ce nom. Napoléon, dit-on, même Hitler. Mais dans ces jours-là, il n'y aura pas de doute. Les saints qui seront instruits, comme la parole de Dieu le dit, comme Daniel le précise, les sages instruiront la multitude et ils pourront dire, voilà, vous voyez, 666, il n'y a plus de doute. Il n'y a pas d'équivoque, c'est bien lui, 666. Et dès lors, les croyants qui n'aimeront pas leur vie jusqu'à la mort, et il n'y aura pas d'alternative, ou bien, d'autres alternatives, ou bien se soumettre, accepter cette marque, ou bien le martyr. Ces croyants, que devient-il d'eux? Tout à l'heure, un de nos frères posait la question bien intéressante aussi, mais les saints de l'Apocalypse, de la période apocalyptique qui vont donner leur vie, qu'en est-il d'eux? Vont-ils ressusciter pour la terre? Il n'y a pas de résurrection pour la terre. Une résurrection, c'est tout à fait fondé, introduit celui qui en est l'objet au ciel. Et nous avons dans le chapitre 6 du livre d'Apocalypse, les martyrs, de la première demi-semaine de Daniel, les martyrs gentils de la bête qui sont déjà mis à mort et leur âme sous l'autel crie « Seigneur, jusqu'à quand ne vengeras-tu pas notre sang ?» Ils sont sur la terre et ils ont bien droit de demander la vengeance de leur sang. Est-ce que nos frères qui souffrent maintenant dans des geôles, dans des bagnes, dans des conditions effroyables et qui pour certains ont donné leur vie, ont-ils demandé vengeance de leur sang? en aucune manière. Nous n'avons pas dans l'économie à laquelle nous avons part, nous n'avons pas du tout cette possibilité. Seigneur ne nous l'a pas laissé un seul instant d'envisager, d'exercer des représailles ou de demander la vengeance sur ceux qui nous font souffrir. Au contraire. Mais pour les saints de ces jours-là, pour lesquels la terre est l'héritage, il est bien évident qu'ils demanderont le jugement des méchants. Notre frère a rappelé tout à l'heure une partie de la prière dominicale, que ton règne vienne. Si nous demandons cela aujourd'hui, comme on le fait répéter dans l'Église multitude, pour toutes sortes de raisons, pour punir quelqu'un, on lui dit, il faut réciter le Pater Noster autant de fois. C'est une chose aberrante. Cette prière n'a pas d'application pour nous aujourd'hui. Elle est dite en 7 parties dans l'Évangile selon Matthieu et en 5 parties dans l'Évangile selon Luc. Laquelle faut-il choisir? Mais dans ces jours-là, cette prière que le Seigneur enseigne aux résidus, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils la répéteront avec intelligence et à propos, parce que pour eux, la demande de l'établissement du règne, c'est précisément la demande du balai de destruction qui va enfin chasser les méchants, mettre fin à cette oppression pour leur donner enfin la terre à laquelle ils ont droit en relation avec le Messie qui sera roi sur la terre. Vous voyez la différence? Tandis que nous n'avons pas d'ennemis sur la terre, et si même des chers croyants subissent le martyre aujourd'hui, ils meurent en priant pour leur bourreau. Et que des faits sont produits quand on se penche un peu sur ces rapports, on a le cœur ému de voir comment Dieu peut changer le cœur de bourreaux sans aucune pitié, en voyant comment nos frères acceptent de souffrir pour le nom du Seigneur. Alors ces croyants de Apocalypse 6 et ceux dont la liste est donnée dans Apocalypse 20, à la dernière mention de ceux-ci parce que tout se termine, qu'arrive-t-il pour eux? Eh bien le Seigneur les ressuscite. Ils ont part à la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Ils vont donc monter au ciel au moment où le Seigneur établira son règne pour jouir d'une félicité céleste, mais sans faire partie de l'Église, bien entendu. C'est pourquoi dans un service d'ensevelissement, on lit quelquefois un passage qui est bien connu et qui est évidemment de saison, quand on lit dans l'Apocalypse, « Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur ». Il est bien clair que ceux qui sont délogés aujourd'hui, nos chers frères et sœurs, que nous pleurons parce qu'ils ont laissé un grand vide dans nos cœurs, c'est bien vrai que nous pleurons, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, parce qu'ils sont auprès du Seigneur et ils sont donc bienheureux. C'est un des 7 bienheureux de l'Apocalypse. Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dorénavant, à partir de maintenant, c'est fini pour eux de toute souffrance. Oui, Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ils sont bienheureux parce que loin de perdre le bénéfice du règne qui va s'établir dans quelques jours, ils vont ressusciter. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Et la liste de ces martyrs est donnée in extenso dans Apocalypse 20. Toutes les catégories de martyrs qui ont donné leur vie après l'enlèvement de l'Église, dans ces temps calamiteux qui d'une manière générale sont repris dans la dernière semaine de Daniel, dans la 70e, et plus particulièrement dans la deuxième demi-semaine qui dure 3 ans et demi, 1260 jours, ces croyants ressuscitent. De sorte que notre frère qui a posé la question a souvent entendu, et nous sommes persuadés qu'il a pu le dire lui-même, que les saints des lieux très hauts, ce sont les saints qui ressuscitent et qui ont donc une part avec le roi dans la partie céleste du royaume. Car il y a dans ce chapitre 9, 7, encore une différence avec les saints. Vous voyez au verset 21, « Et cette corne fit la guerre contre les saints et prévalut contre eux. » Pourquoi ne trouvons-nous pas les saints des lieux très hauts? Cette corne fit la guerre contre les saints, c'est-à-dire ceux que Dieu a mis à part, ceux que Dieu reconnaît comme les siens et qui maintiennent les droits de Christ quant à la royauté qui doit lui être attribuée. Disons, il n'est pas possible que nous nous joignions à un système d'iniquité qui prétend établir un royaume qui appartient au Seigneur. Nous refusons de nous soumettre à cette imposture, d'où le martyr, la mort, et cette corne fait la guerre contre les saints. Et il l'a fait pendant un temps, au verset 22, le jugement fut donné aux saints des lieux très hauts, nous retrouvons l'expression les lieux très hauts, le jugement leur fut donné, parce que les saints des lieux très hauts, les saints célestes vont accompagner le Seigneur lors du jugement de ce monde, et il est bien, bien évident, bien logique, bien rationnel que nous trouvions là les saints des lieux très hauts qui vont exercer le jugement. Et le jugement fut donné aux saints des lieux très hauts. Et que le temps arriva où les saints possédèrent leur royaume. De nouveau les saints, dans ce verset 22, à la fin, non plus les saints des lieux très hauts, le temps arriva où les saints possédèrent leur royaume. Ce sont les saints qui vont régner sur la terre avec le Seigneur, qui seront les sujets les plus privilégiés du règne de Christ sur la terre. Mais les saints des lieux très hauts, ce sont ceux qui sont au ciel, en dehors de l'Église sans doute, mais qui forment une des grandes compagnies qui vont assister aux noces de l'agneau, ce sont eux, avec ceux de l'Ancien Testament, que nous entendons dire « Venez, réjouissons-nous, tressaillons de joie, car les noces de l'agneau sont venues. » L'union de Christ et de son épouse est le sujet de joie pour tous les habitants du ciel, y compris les saints des lieux très hauts que nous avons ici, qui donneront leur vie pour le Seigneur, mais qui ressuscitent et qui font partie de la première résurrection. Je suppose que vous pouvez.
Sur nos chers frères qui nous ont enseigné, mais il y a une autre interprétation. Un frère a écrit que l'Église n'était pas vue dans ces saints-là. Je ne sais pas si les frères ont vu cette affaire.
Elle est à part.
Elle est à part.
Il est difficile de penser que l'Église soit présenté ici, puisque c'est un mystère caché qui n'a été révélé qu'après la mort de Christ et par le dernier apôtre des nations, Paul, lorsque Christ était déjà glorifié. Mais d'un autre côté, la pensée est bien confirmée par l'Écriture, par ailleurs dans l'enseignement du Nouveau Testament, que l'Église régnera avec Christ. Et non seulement cela, je crois que la pensée va beaucoup plus loin. Un mot d'abord sur l'expression des saints des lieux très hauts. Ce sont des saints, c'est-à-dire qu'ils ont la vie de Dieu, d'une dispensation ou d'une autre, essentiellement là, puisque nous sommes au moment où Rome va disparaître, l'Église est partie. Donc ce sont des saints, des rachetés du Seigneur, qui ont la vie de Dieu, qui ont la vie divine, qui ne connaîtront jamais la seconde mort, mais qui seront suscités sur la scène d'un témoignage lorsque l'Église sera partie. Donc ce sont des saints après l'enlèvement de l'Église. Pourquoi sont-ils appelés des lieux très hauts? Parce qu'ils sont en rapport avec le ciel, en rapport avec le lieu où Dieu demeure. Et ceci est confirmé par le fait que dans les différentes catégories de rachetés que nous trouvons dans l'Apocalypse, particulièrement la foule nombreuse de la deuxième partie d'Apocalypse 7, les rachetés de Judas d'Apocalypse 14, nous les trouvons en rapport avec Dieu, en rapport avec le ciel, chantant par exemple le cantique nouveau devant le trône. Ce ne sont pas ni les saints de l'Ancien Testament, ni les saints de l'Église qui sont autour du trône dans les 24 anciens d'Apocalypse 4 et 5. Mais ils sont encore en rapport avec Dieu, en rapport avec Christ, en rapport avec le trône. Et ils chantent une autre forme de cantique. Et ceux qui ont les palmes dans leurs mains, en Apocalypse 7, qui sont les rachetés, le résidu tiré d'entre les nations, ont un rapport avec les lieux célestes. Ils auront une place dans le royaume. Les saints de l'Ancien Testament sont vus dans les 24 anciens d'Apocalypse 4 et 5, de sorte que eux aussi, selon la révélation d'Apocalypse 4, ont une couronne. Une couronne, c'est le caractère du roi. Un roi règne. De sorte que les saints, Abraham, premier, qui est entré dans la bénédiction, c'est Abel, puis tous ceux qui ont suivi dans la lignée des hommes de foi, qui avaient la vie de Dieu, auront une part dans le ciel pour régner avec Christ. L'Église a une place tout à fait particulière. Elle règne avec Christ. Les saints de l'économie de la grâce, de l'Église, jugeront le monde et les anges. 1 Corinthiens 6. Et puis ceux qui avaient traversé la grande tribulation et qui ont donné leur vie pour Christ, qui en fait ont eu part à la seconde partie de la première résurrection, eux aussi règnent. Apocalypse 20 nous dit que ils régneront avec Christ. Le reste des morts ne vécut pas juste avant. Ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Donc, ils reçoivent bien le royaume. Et il n'y a point de royaume intermédiaire entre le moment de la destruction du royaume romain et l'introduction du royaume du monde, de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes bien sur le terrain de Daniel 7. Dire quand même que dans Daniel 7, les saints de l'Église sont inclus, je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, l'Église n'était pas révélée. Mais nous comprenons à la lumière de l'Ancien du Nouveau Testament qu'effectivement, les saints de l'Église auront bien leur part.
Mais à part.
Une pensée qui complète celle que notre bien cher frère, M. Élie Junion, disait juste à la fin de l'entretien de ce matin. Nous régnerons avec Christ. Mais il y a une condition. 2 Timothée 2. Si nous souffrons avec lui maintenant, nous régnerons avec lui plus tard. Je ne crois pas que si nous n'avons pas accepté maintenant d'être rejetés du monde et de souffrir du côté du Christ rejeté, que nous pourrons véritablement jouir, comme le Seigneur avait en réserve pour nous, de régner avec lui sur le monde, justement, sur lequel il régnera plus tard. C'est maintenant que l'occasion, si nous souffrons, c'est maintenant que l'occasion nous est accordée de souffrir pour le vrai maître, pour le roi, pour celui qui plus tard régnera en gloire, en justice, en paix et en jugement. Le 19-15 nous dit bien que le Seigneur a reçu le royaume. Nous sommes donc bien sur le terrain du règne.
Pensée précieuse aussi au sujet d'Apocalypse 7 et d'Apocalypse 14, qui situe peut-être une position particulière de l'Église, de l'épouse. Pendant le temps qui suit l'enlèvement des saints, au moment où les rachetés sont avec le Seigneur, ce qui paraît avant le chapitre 7, chapitre 4, chapitre 5, nous assistons à une scène particulière, les rachetés sont là, l'épouse, l'Église est avec le Seigneur. Et alors, il y a quelque chose ici d'un prix particulier qui nous fait désirer aussi, c'est l'une des choses qui nous fait désirer ardemment le retour du Seigneur, parce que nous jouissons maintenant de soins d'une certaine manière. Ces soins nous sont dispensés d'en haut. Et nous avons encore les pieds sur la terre, et nous connaissons que ces soins-là nous sont dispensés, nous en rendons grâce. Mais à ce moment-là, lorsque nous serons avec le Seigneur, nous connaîtrons de l'intérieur, du haut, dans la gloire, auprès du Seigneur, comment les soins à l'égard de ceux qui ont alors les pieds sur la terre en bas sont envoyés, comment ils sont commandés, et comment ceux qui ont besoin du secours, c'est le cas de la fin d'Apocalypse 7 en particulier, reçoivent justement ce secours. Il y a donc ici une position d'intimité, une position glorieuse, tout intérieure, dans laquelle nous sommes associés avec celui qui domine et qui veille sur ceux qui sont vus, c'est le cas d'Apocalypse 7 et d'Apocalypse 14, fin d'Apocalypse 7, début d'Apocalypse 14, comme étant en relation avec celui auprès duquel nous serons.
On apprend en passant que les deux occasions où les consolations divines sont promises, dans l'Apocalypse, c'est dans l'Apocalypse 7, au verset 17, justement, pour ceux qui ont traversé la grande tribulation sortie d'entre les nations, l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la deuxième consolation promise, c'est dans l'état éternel, En Apocalypse 21, verset 4, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine. Voilà les mêmes consolations pour tous les rachetés, pour toutes les dispensations, pour tous les moments. Et n'y a-t-il pas bien de nos frères aujourd'hui qui pleurent et qui ont besoin de cette consolation divine? Elle est là, à leur disposition.
Dernière ligne, nous goûterons au lieu de je goûterai.